Bonjour, voici en nouvelle diffusion, dans une version légèrement remontée, un numéro de Lab Oratoire consacré aux finances solidaires et ou participatives, enregistré au Solilab. Avec les complicités de Valentin Beauvalet, Camille Gérard, Astrid Largement et Yann Le Tailleron, je reçois Jean-Loïc Sorel, délégué régional des clubs d'investissement pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire, les Cigales, Susanna Nunch, représentant la plateforme de crowdfunding financier We Do Good, nous rejoindra en fin d'émission Hélène Proux pour nous présenter son projet de création d'association qui déménage.
Ça fait combien de temps que vous existez ?
Ça fait 3 ans, mais la première année, c'était une première année de recherche et développement.
Susanna Nunch.
Sur le mode financement, parce qu'il fallait monter les contrats qui allaient avec, il fallait trouver les mécanismes juridiques, légaux et pertinents par rapport aux porteurs de projets. Après, l'année dernière, c'était la première année où on a vraiment financé des projets. On a financé 13 projets, on a collecté plus de 220 000 euros. Et voilà, et cette année, ça décolle encore. Toutes les semaines, on a une dizaine de porteurs de projets qui nous contactent. Donc, c'est vraiment une année de montée en puissance.
Pour citer 2-3 projets, en gros, dans les levées de fonds que vous arrivez à faire, au maximum, c'est avec Naudon que vous avez eu 90 000 euros, mm-hmm. qui avait fixé des objectifs entre 70 000 et 165 000 euros. Et c'est 142 personnes qui ont donné.
Et Naudon, c'est un cas très intéressant parce que ça permet d'illustrer bien que le financement participatif, en fait, il est complémentaire aux autres modes de financement. Naudon, c'est un projet nantais, assez innovant. Et il travaillait sur un prototype qui permet de produire de l'électricité et de la chaleur à partir de déchets de bois. Et en fait, les banques étaient un peu frileuses parce que c'était trop innovant. Les acteurs institutionnels n'étaient pas encore prêts à les soutenir parce que c'était trop tôt dans leur démarche. Et ils avaient quand même besoin de financement pour pouvoir le faire.
Ouais.
Donc, le fait d'avoir réussi une campagne de financement participatif et à mobiliser plus d'une centaine de personnes autour de leur projet, ça a permis de leur donner de la crédibilité auprès de ces types d'acteurs. Et tout de suite, les banques ont suivi, les business angels ont suivi, les acteurs institutionnels ont suivi et tout s'est déclenché.
Vous avez été l'étincelle qui a développé le plan. Pour citer 2-3 autres projets qui ont fait des levées de fonds moins importantes mais qui sont rentrés dans ce qu'elle visait, il y a les Repêchés Mignons qui confectionnent de la confiture à partir de fruits et légumes sauvés du gaspillage. Donc eux, ils ont réussi à lever 5 530 euros. Et un projet plus petit, La Puce à l'oreille, une boutique éthique à Rennes qui, elle, a levé 3 540 euros. Actuellement, il y a un projet qui s'appelle Prosper, qui est en développement sur votre site. Il cherche à avoir entre 55 000 euros et 77 000 euros. Et si on s'inscrit sur votre site et qu'on rentre une somme comme ça, en gros, vous promettez, ou en tout cas, ce qui est visé pour la personne qui investit, c'est un gain, une rentabilité de son aide de 8,43% de bénéfices. C'est pas mal pour un plan financier. Donc ça rentre quand même pour les gens qui investissent dans une démarche de rentabilité.
Oui.
Et
l'objectif, c'est de à la fois toucher tout citoyen qui a envie de mettre un peu d'argent dans un projet qui a un impact positif, mais aussi un peu de détourner les investisseurs classiques qui sont dans une logique de retour sur investissement, de leur proposer un placement qui reste intéressant et qui a un impact. Donc on est sur l'idée d'impact investing au sens large.
Ouais. Ouais. Est-ce qu'on est défiscalisé aussi ?
Non.
Ok.
Pas trop en demander.
C'est des modes de financement trop récents,
ouais.
Donc la loi n'a pas encore suivi, c'est pareil.
D'accord.
Et on peut rester dans l'éthique quand on rentabilise ses investissements ? Bon, c'est une question comme ça.
Après, c'est à chacun de voir. Juste par rapport à Prosper, c'est un projet intéressant parce que leur objectif, c'est de créer une sorte de bon coin des industriels où ils peuvent... en fait, les industriels, ils n'utilisent pas tout leur stock. Il y a une partie qui a déjà été amortie. Et pour les couler, en fait, ils font appel à des entreprises qui vont juste les mettre en déchetterie ou les traiter comme déchets. Et l'objectif, c'est de pouvoir revendre ces stocks qui n'ont pas été exploités à des PME, par exemple, qui en ont besoin à des prix réduits.
Pourquoi avoir choisi un nom en anglais ? C'est ça qui prouve que c'est innovant, que c'est dans l'air, c'est dans l'époque ?
Il y a eu beaucoup de débats. En français, ça sonne moins bien quand même. Si on s'appelait On fait du bien, c'est quand même un peu plus bizarre. Et l'idée, c'est aussi de, peut-être un jour d'aller à l'international, donc aller avoir un nom qui passe un peu partout. Et qui est aussi symbole de nos valeurs, parce que nos valeurs sont clairement inscrites dans le nom. Le fait qu'on soit collectif, qu'on soit dans l'action et qu'on soit sous l'impact.
Comment vous choisissez vos projets ? Comment vous les analysez ? Quel est votre rôle avant que le projet soit mis sur le site et que la personne qui s'inscrive soit sûre que ce qui est présenté soit juste dans le développement du projet, qu'il soit réalisable, que va bien y avoir l'impact qui est écrit ? Parce qu'on sait tout quand on est sur votre site. On sait le nombre d'emplois qui vont être créés, on sait l'impact sur l'environnement, sur la ville, sur le territoire. Enfin, tout est inscrit. Comment vous choisissez ces projets-là et comment vous faites cet état des lieux ?
Tout d'abord, nous avons un comité de sélection interne, en amont. On a une grille avec des critères sur l'impact environnemental, l'impact social, l'impact économique local. On essaie de regarder, on demande des informations au porteur du projet, on essaie de regarder si c'est cohérent. Donc on donne un premier avis, on fait un pré-tri des projets qui sont sur la plateforme. Et après, parce qu'on juge qu'on n'a pas les compétences, toutes les compétences nécessaires pour vraiment dire si un projet a un impact ou pas, on met le projet en ligne sur une phase de vote. Et là, c'est les internautes et probablement les futurs investisseurs qui vont dire « moi j'y crois, moi j'y crois pas ». Et si j'ai des questions, ben je les pose. C'est une opportunité pour poser mes questions au porteur de projet par rapport à son impact. Et si le projet ne passe pas la phase de vote, ben il ne sera pas en campagne de financement participatif.
Même question que Michel tout à l'heure à Loïc pour les Cigales. Votre rôle par rapport à une banque, il est différent ? Il est en amont ou d'une certaine façon, vous faites ce que les banques devraient faire et qu'elles ne font pas ?
Il est différent, il est en amont, je pense. Il est différent parce qu'on est vraiment, on ne fait pas de l'accompagnement financier, on fait de l'accompagnement surtout en communication. On va aider le porteur de projet à mobiliser sa communauté, on va lui donner des outils, on va le former parce que parfois il ne sait pas comment faire, mais par rapport à sa campagne de financement participatif. Donc c'est vraiment une démarche de communication. Les banques, ce n'est pas leur rôle, je pense. Ils ne sont pas dans la même logique. Et souvent, le financement participatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vient en amont d'un prêt. Et donc on est aussi en amont, on est complémentaire en fait des banques.
Concrètement, ce sont des intentions de participation financière ou vous récoltez les fonds et si oui, vous les placez entre-temps ?
Nous, on ne touche pas l'argent directement. Toute plateforme de financement participatif est obligée d'avoir un intermédiaire qui gère tous les investissements et qui le transmet, qui fait la transmission entre les investisseurs, le porteur de projet. Et ensuite, pour les versements, c'est pareil. Nous, on se rémunère sur une commission qu'on touche à la fin si la collecte réussit. Mais tous les autres fonds, tous les autres flux financiers, ils passent pas par nous. De toute façon, on n'a pas le droit, aucune plateforme a le droit de le faire.
Donc il n'y a pas de placement entre-temps ?
C'est un sujet très intéressant parce qu'en France, il y a uniquement deux prestataires de paiement. Il y a uniquement deux solutions. On n'a pas vraiment le choix en termes de prestataires de paiement. Et en fait, aucun a son siège en France. Donc ça veut dire que l'argent, même si on veut rester éthique, l'argent, il passe quand même par...
Mais ce n'est pas au Panama ?
Non, ce n'est pas au Panama. C'est pas très loin, mais ce n'est pas en France.
C'est où ? C'est où ?
Je ne sais plus.
Si, si.
Je pense que c'est en Suisse.
Il
faudrait vérifier.
Je
sais que c'est vraiment pas très loin, mais je ne me souviens plus exactement.
On avait prévu un troisième invité, Valentin. C'était pour lancer le reportage.
Oui, reportage de Camille et Astrid, donc, qui sont à la frappe, et qui ont été pour nous rencontrer la Nef. Bonjour Camille.
Oui, alors avec Astrid, on a rencontré Julien Le Couturier, donc de la Nef. On est allé jusque dans ses bureaux au cœur de Nantes, donc je ne veux pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir.
Quoi, il y a des beaux fauteuils ?
Oh oui, 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 un super accueil.
Allez, on écoute Julien Le Couturier.
Vous êtes le délégué régional de la Nef, une coopérative de finances solidaires. Nous sommes ici rue de Poissy, dans les bureaux de la délégation nantaise. Alors pour commencer, en quelques mots, pouvez-vous nous présenter ce que c'est la Nef ?
Alors la Nef est une coopérative de finances solidaires créée en 1979, sous forme associative à l'origine, transformée en société financière coopérative en 1988. La NEF est une donc, coopérative de finances solidaires ou banque éthique, à savoir, elle met en rapport des épargnants et des emprunteurs, donc emprunteurs, entreprises et associations, qui soit vont créer leur activité, soit vont développer leur activité, sachant que ce qui est important, c'est que la NEF va financer certaines activités et pas d'autres, d'où l'éthique des projets que l'on finance. Certaines activités, c'est-à-dire des activités qui entrent dans les secteurs environnementaux, sociaux ou culturels.
Donc la NEF est une banque éthique, et quelle différence il y a avec une banque, disons, lambda?
Déjà, nos valeurs fondamentales, qui sont, réelles, on finance certains projets et pas d'autres. On le fait en transparence, et ça on le fait depuis plus de 20 ans. Et très clairement, qu'est-ce qui va nous différencier? Au-delà de la transparence et de l'éthique des projets, c'est que notre ambition, ça va être de financer l'économie réelle sur des secteurs, porteurs de sens. Notre lien avec les clubs Cigale, il se fait sur le financement des projets. On a des outils d'intervention qui sont différents. Eux vont intervenir en capital dans une entreprise, dans une société. Nous, on va intervenir par du prêt bancaire. L'outil est différent, la finalité est la même, à savoir financer une création, financer le développement d'une entreprise qui va intervenir dans les champs de l'économie sociale et solidaire.
Quelle place ont les sociétaires dans la coopérative?
Ils n'ont pas une place forcément de décisionnaire sur les financements que l'on octroie. Ils ont par contre un poids important sur, sur les conseils ou les avis qu'ils peuvent donner sur les projets. Mais au-delà de ça, la NEF a depuis maintenant 3 ans développé des postes qui sont des postes de responsables de vie coopérative. Et donc, à l'heure actuelle, on a 4 responsables de vie coopérative sur l'ensemble de la France qui, justement, ont comme mission de voir se développer, de voir se créer et se développer des groupes locaux de sociétaires. Je rappelle, on a à peu près 37 000 sociétaires sur l'ensemble de la France. Sociétaire, c'est une personne qui détient une ou plusieurs parts sociales à la NEF. Et donc, ce sont des sociétaires dont l'objectif va être de voir se développer la coopérative, voir se développer la NEF. Et donc, du coup, les coopérateurs, donc les sociétaires de la NEF, ont un rôle important dans la mesure où c'est quand même grâce à eux que la coopérative existe.
Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'il y ait un besoin de structures alternatives?
Je pense que c'est au niveau je ne vais pas dire forcément la non-réponse, mais la réponse incomplète qui peut être donnée par le système bancaire traditionnel vis-à-vis de la spécificité des projets qui sont des projets d'économie sociale et solidaire que l'on peut être amené à financer, qui vont se créer ou se développer. Et c'est quelque chose qui est aussi assez glissant dans la mesure où un projet très innovant aujourd'hui ne le sera pas demain, et peut-être qu'une banque commerciale plutôt traditionnelle aura du mal à le financer aujourd'hui, le financera plus facilement demain. Il suffit de regarder par exemple, si on regarde le réseau des Biocop, le réseau Biocop qui est un réseau de magasins bio sur l'ensemble de la France. Il y a 25 ans, ils avaient beaucoup plus de mal à financer des magasins sur l'ensemble de la France. La NEF finançait déjà des magasins Biocop il y a 25 ans, elle continue de le faire. Certaines banques le font depuis 5 à 10 ans.
Quelle est la différence entre une structure comme la NEF et les plateformes de crowdfunding comme WeDoGood, par exemple?
On a des outils d'intervention qui sont différents, complémentaires mais différents. On a la même idée de base, à savoir mettre en lien des épargnants et des porteurs de projets. Quand une entreprise doit financer des investissements, on peut être à plusieurs à les financer. La NEF en fait partie, WeDoGood peut en faire partie, les Cigales peuvent en faire partie. Il n'y a pas d'exclusivité.
Un reportage de Camille Gérard et d'Astrid Largement. Donc si j'ai bien compris, Jean-Loïc Sorel, vous êtes tous et toutes complémentaires.
C'est le même moteur chez le citoyen de venir dans une Cigale ou de passer par une plateforme de crowdfunding. C'est « je veux savoir où vont mes ronds, où va mon argent ».
Sauf que vous, c'est pas rentable.
Il n'y a pas de rendement financier. C'est rentable humainement et c'est rentable en gratification et c'est rentable en dividende sociale, on dit.
Jean-Loïc Sorel, Suzanne Anounch sont les invités de Lab Oratoire consacré aux finances solidaires et ou participatives.
le dividende social d'avoir contribué à créer le Solilab. On est quand même super content. On pourrait pas être là aujourd'hui, par exemple, si, enfin bon, on n'a pas été tout seul, mais.
Chez We Do Good, le moteur d'investissement, souvent, c'est les valeurs, c'est pas le retour sur investissement pour la plupart des investisseurs. Il y en a qui regardent, mais on voit bien que c'est pas ça qui fait que les gens investissent. C'est vraiment toute une autre logique de vouloir que l'argent, l'utilisation de l'argent ait de l'impact.
Pour finir de répondre, le crowdfunding derrière son ordinateur, je suis tout seul. La grosse différence avec la Cigale, c'est on se met à plusieurs et on décide et on rencontre les gens, on rencontre les porteurs de projets physiquement, on va dans leur entreprise, on va dans leurs locaux, on peut même de temps en temps, quand on tient un stand, peut-être même être en face de leurs clients, donc on est aussi dans l'action et à plusieurs. Donc c'est ça, je pense, la principale différence entre le... Donc c'est deux outils différents au service de la même motivation. Donc on ne se fera pas envahir par le crowdfunding, au contraire, en Pays de la Loire, on est passé de 8 cigales à 34 en 3 ans, donc c'est bien que...
Je ne vais pas en faire plus long sur le sujet, mais vous accompagnez les projets et la communication des projets, et vous, pour communiquer sur votre projet, vous mettez bien en avant ce rendement.
Oui, il faut, hein, l'objectif est bien...
Ça ne suffit pas simplement de dire une rentabilité sociale.
Non, ça ne suffit pas, surtout si on est dans une logique de transition sociétale où on veut impliquer vraiment tout le monde.
Est-ce que le fond du débat, et c'est justement Julien le Couturier qui disait ça, c'est quand même de savoir comment on accompagne les porteurs de projets aujourd'hui et de savoir pourquoi dans notre société c'est compliqué pour quelqu'un qui a un projet qui sera viable, puisque là on a eu l'exemple de plein de projets qui fonctionnent, qui aujourd'hui sont lancés, que c'est une évidence. Alors ils ont été créés sur des valeurs, mais au démarrage, s'il n'y avait pas eu des systèmes alternatifs pour les financer, ils n'auraient jamais existé. Et est-ce que c'est pas ça le fond du sujet quand même ? De savoir quel est le rôle, quel est votre rôle dans la société et est-ce que vous n'avez pas pris une place qui aurait dû être tenue par d'autres ?
Par quels autres ?
Justement, on parlait des banques. Julien le Couturier, je crois, c'est exactement dans le sujet, disait c'est les banques, entre guillemets, normales qui n'ont pas fait leur mission. Et du coup, nous, on arrive comme ça sur des plans de financement pour aider
donc,
des porteurs
vous,
de projets.
Vous êtes un partisan de réduire la biodiversité, hein ?
Non.
Ben si, parce que vous voulez qu'il n'y ait qu'un type d'acteur qui réponde à un type de
besoin. Non, je
ne
veux pas qu'il y ait qu'un type d'acteur. C'est qu'à un certain moment, s'il y a eu des systèmes alternatifs qui se sont mis en place, c'est bien parce que les systèmes principaux ont laissé cette place-là.
Ou qu'il y avait des citoyens qui avaient envie de se prendre en main et d'être acteurs directement. Aujourd'hui, il y a des supermarchés. Il y a un supermarché collaboratif qui va démarquer sur l'agglo, sur le modèle d'un truc qui s'appelle la Louve. Et c'était le modèle des Biocop il y a 30 ans. Mmh. Il y a des tas de champs d'activités où le citoyen se prend en main et se met à agir à côté des acteurs traditionnels. C'est de la biodiversité.
Et pourquoi maintenant que tous ces acteurs que vous représentez là aujourd'hui existent et ont pris cette place importante dans la société, on remarque que les banques, justement, les acteurs traditionnels, mettent en place exactement le même type de formule basée sur la solidarité, basée sur... N'importe quelle banque aujourd'hui met en place son site de crowdfunding ou s'associe à un site de crowdfunding.
Ça prouve que c'est bon, puisque la mutation, elle va plutôt vers les trucs... qui sont solides, les mutants, si on peut aider à faire muter les banques.
Ah aussi, le changement, il peut aussi venir de bas. Donc c'est un peu ça, cette dynamique qui est en place. Si les banques changent, c'est aussi parce que le
public change, l'opinion publique.
Il y a le rapprochement avec les AMAP qu'on peut faire aussi, où ça permet de favoriser le dynamisme des magasins de producteurs, de vente à la ferme. Ça a accéléré tout ça, c'est une offre qui s'élargit par rapport à des besoins du consommateur qui va être moins guidé, qui va avoir plus de choix. Et c'est peut-être la grosse tendance du 21e siècle, l'individualisation de la réponse. Et c'est les challenges sur lesquels sont en train de travailler les gros industriels. Mmh. Demain, on aura chacun, si on a encore des voitures, on aura chacun une voiture différente.
C'est aussi parce qu'on se rend compte petit à petit que les enjeux sont quand même très importants et qu'on ne peut pas attendre que ce soit uniquement certains acteurs qui prennent en main les actions qui sont nécessaires. On qu'on se rend compte qu'il faut que chacun participe à son niveau et que chacun s'empare de certains aspects de sa vie, comme l'utilisation de son épargne, comme le fait de choisir son producteur de légumes. C'est vraiment un changement qui doit venir de tous les niveaux de la société. Parce que les enjeux sont quand même importants.
Nous avons pris l'habitude, au cours de l'émission, de faire un éclairage sur un projet de création d'entreprise. Nous allons recevoir quelqu'un qui se démène pour monter son entreprise.
Son association.
C'est Hélène Prou avec Démène Age.
Alors ça s'écrit Démène, D-E-M-E-N, apostrophe A-G-E. Tout simplement parce qu'en fait, on est une nouvelle association sur la région nantaise et on accompagne les personnes âgées qui souhaitent déménager. Donc l'association est partie c'est parti d'un constat assez simple en fait, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont faites aujourd'hui pour le maintien à domicile. Il y a aussi énormément de choses qui sont faites pour proposer un panel beaucoup plus large de structures pour les personnes âgées, des foyers logements, des EHPAD, des maisons de retraite, etc. Mais pour faire la transition d'un logement à l'autre, il n'y a rien. Mais il y a des ménages maintenant. Donc ça fait un an qu'on est créé et donc on accompagne les personnes âgées et les personnes en situation de handicap qui souhaitent transiter vers un nouveau lieu de vie. Et donc, on va les aider sur toutes les étapes de leur déménagement. Et le but, c'est vraiment d'adoucir au maximum la transition d'un logement à l'autre et de rompre, en fait, avec le caractère vraiment anxiogène du déménagement. Donc, on va les aider à faire le tri de toutes leurs affaires, de tous leurs souvenirs, parfois des souvenirs de toute une vie. On va les aider dans ce travail-là. On va faire leur carton. On va faire aussi toutes les démarches administratives liées au déménagement, donc les changements d'adresse, les résiliations de contrat, etc. On va leur trouver des déménageurs qui sont nos partenaires. On fait aussi la coordination avec les maisons de retraite. Donc, par exemple, ça peut être visiter le nouveau logement ou la nouvelle chambre en structure, prendre des mesures et des photos et être en mesure de retourner voir la personne âgée, lui montrer les photos et pouvoir lui dire « votre meuble, malheureusement, ne va pas passer dans le prochain logement » et ainsi l'aider à déterminer ce qu'elle va emporter ou non. Et enfin, une fois que tous les cartons sont arrivés à bon port, on passe au déballage. Et donc on déballe les cartons, on recrée l'espace de vie de la personne, on essaye de respecter son rythme au maximum. Et voilà, l'objectif est atteint quand la personne, elle est dans son nouveau logement, elle a retrouvé ses objets, elle a retrouvé son environnement et qu'elle s'y sent bien et qu'on voit que la transition s'est faite de manière la plus douce possible.
Vous organisez des vide-greniers aussi? Parce que un déménagement, c'est souvent un moment pour se délester.
Souvent, les personnes partent en maison de retraite et doivent se séparer des trois quarts, des fois, de leurs biens. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui restent. Nous, on essaye de donner au maximum à des associations. Donc on travaille beaucoup avec l'association L'Homme Debout à Saint-Herblain, qui récupère tout ce que les personnes souhaitent donner. Après, on n'a pas encore eu le cas, mais pour des grandes maisons, on pense faire des vides maisons, organiser ça les week-ends, pour essayer de récolter un peu d'argent pour les personnes, pour aider à payer la prestation et le déménagement.
Rapidement, votre parcours avant de créer cette association. Vous venez d'où ?
Je viens d'où ? Je suis nantaise de base. J'ai un master 2 en sociologie. Ma collègue qui a monté l'asso avec moi a un master en droit. On a toutes les deux fait un service civique à la suite de nos études dans des associations nantaises. Et on a eu envie de rester dans le milieu associatif. C'est Malika qui a eu l'idée en premier. Quand elle m'a soumis son idée, moi, ça faisait écho à ma situation personnelle parce que j'aidais mes grands-parents à entrer en EHPAD à ce moment-là. Et je me suis dit, il y a du besoin, pourquoi pas, et on s'est lancé ensemble dans l'aventure.
Vous avez fait une étude de marché ?
Oui, on a fait une étude de marché, statistiques, etc. On a rencontré aussi énormément d'assistantes sociales, de personnes, de travailleurs sociaux, etc., qui nous ont vraiment dit qu'il y avait du besoin, en fait. C'est un service qui n'existe pas aujourd'hui, et le besoin n'est pas comblé, et donc on est là pour résoudre ce problème.
Et pour vous aider financièrement à monter l'association, vous avez fait appel au CIGAL, au crowdfunding,
non,
ou
non.
À votre famille, non?
Non plus. Aujourd'hui, c'est beaucoup de subventions. Donc nous, c'est une prestation qui est payante. Donc il y a la vente des prestations, mais il y a aussi les subventions. On est soutenu financièrement par la ville de Nantes, Nantes Métropole, les caisses de retraite également, et quelques appels à projets aussi qu'on a pu remporter cette année.
Merci. Bah oui, c'est très simple de venir présenter son projet.
Merci.
On va remercier Valentin, nos invités.
Eh ben, merci beaucoup, Susanna, qui est donc, je voulais retrouver le terme exact, chargée de communication et je crois de la bonne humeur, c'est ça ?
D'optimisme.
De l'optimisme, oui, do good.
Jean-Louis Sorel, délégué régional des Cigales.
Ben, merci à vous de nous avoir invités. On peut aussi donner rendez-vous premier vendredi, samedi de novembre, où tous les financeurs solidaires de la région de l'agglo vont animer des tas d'ateliers, d'informations, de rencontres de porteurs de projets, etc. C'est en train de se construire. Et ce sera un grand moment de la finance solidaire sur notre territoire.
Il y a déjà eu des moments, et là vous poursuivez et vous construisez ensemble.
On change d'échelle cette année. C'est le grand mot aussi, pas finance solidaire.
Merci à l'équipe, Astrid, Camille, Valentin et Yann. Et puis nous, on se retrouve, on n'a pas encore fixé la date, mais
le mois prochain,
en direct du Solilab. Bonne écoute sur les ondes d'Alternantes.